Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. C'est l'une des conséquences du putsch avorté de la mi-juillet en Turquie. Les purges se multiplient désormais à l'université. Des milliers d'enseignants ont été suspendus pour des liens présumés avec les réseaux de Fethullah Gülen, le prédicateur exilé aux États-Unis que le pouvoir turc soupçonne d'être à l'origine de la tentative de coup d'État. Alors, à quelques jours de la rentrée, dans les couloirs des universités, les dénonciations vont bon train. À Istanbul, c'est le reportage d'Anand Lauer.
L'ordre a été donné 4 jours après la tentative de putsch. Par lettre du 19 juillet, le Conseil de l'enseignement supérieur de Turquie sommait tous les recteurs d'universités publiques et privées de produire un rapport urgent sur leur personnel ayant, je cite, « soutenu ou aidé l'organisation de l'État parallèle ». Traduction, fournir les noms de leurs employés dits « gulenistes », susceptibles d'être liés à Fethullah Gülen, ce prédicateur installé aux États-Unis que la Turquie accuse d'avoir fomenté le coup d'État grâce à ses très nombreux fidèles dans l'armée et l'appareil étatique. Les recteurs n'ont pas tardé à fournir ces fameuses listes. À ce jour, près de 4500 enseignants ont été suspendus de leurs fonctions, certains placés en garde à vue. Görkem Doğan est président à Istanbul de la branche université Deitimsen, syndicat de gauche opposant de toujours au parti de la justice et du développement l'AKP du président Recep Tayyip Erdoğan. Il n'est pas contre le principe des purges anti-gulenistes à l'université ou ailleurs.
Les gulenistes existent bel et bien et ils sont très puissants à l'université. Il faut aussi compter tous ceux qui, pour progresser dans leur carrière, ont pu se rapprocher des gulenistes. Mais parmi eux, qui a simplement entretenu des liens avec cette communauté? Qui a réellement cru que Fethullah Gülen était le messie et a obéi à ses ordres? Je n'en sais rien. Tout cela risque de tourner à la chasse aux sorcières effrénées.
Ce qui inquiète ce syndicaliste, c'est donc bien la méthode. Qui est écarté et pourquoi? Selon quels critères?
La communauté de Gülen est très large. À mes yeux, ceux qui le considèrent comme un nouveau messie sont stupides. Mais être stupide n'est pas un crime. Idem pour ceux qui ont tissé des liens de patronage, de clientélisme. Est-ce un crime? Je ne le pense pas. Le président Erdoğan lui-même a dit qu'il avait été trompé par Gülen. A fortiori alors un simple enseignant. En ce moment, chacun se sent menacé et la délation se propage. Il faut tracer une ligne à un moment. Où se situe cette ligne?
Personne, pas même les autorités, ne semble connaître la réponse ces jours-ci en Turquie. Tarsin Yeşildere, président de l'Association des enseignants d'université, s'est récemment entretenu avec le président du Conseil de l'enseignement supérieur. Depuis la capitale Ankara, il partage ses craintes.
Je lui ai demandé comment étaient établies les listes d'employés à démettre de leurs fonctions. Il m'a répondu qu'il y avait des dénonciations confortées par des faits. Par exemple, posséder un compte dans la banque proche de Gülen, Banque Asia. Tout cela est très perturbant. Nous avons dit qu'il fallait des documents, des preuves pour sanctionner. Le processus continue, il faut attendre, nous a-t-on répondu. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop comment procéder. Nous sommes très inquiets, car les dénonciations, c'est la porte ouverte au harcèlement contre des personnels dont certains responsables d'université voudraient se débarrasser en profitant de l'état d'urgence.
Depuis le 21 juillet et pour 3 mois renouvelables, la Turquie vit en effet sous état d'urgence, ce qui prolonge de 4 à 30 jours la durée maximale de garde à vue. Ce régime d'exception dispense également les administrations d'informer leurs salariés mis à pied des raisons de cette sanction dans un délai précis. En temps normal, la durée légale est de 10 jours maximum. Le syndicaliste Görkem Doğan le déplore.
Nous sommes entrés dans l'ère du soupçon. C'est à la personne accusée de prouver son innocence. C'est d'autant plus difficile que beaucoup d'enseignants mis à pied ne savent toujours pas quels éléments concrets ont motivé cette sanction.
Ainsi de Candan Badem, ex-chef du département d'histoire de l'université publique de Tunceli dans l'est de la Turquie, suspendu et poursuivi pour des liens présumés avec les réseaux de l'imam Gülen. L'enseignant a passé une journée en garde à vue. Contacté par téléphone, il juge toute cette affaire absurde et soupçonne son recteur, avec qui il est en conflit, d'avoir profité de la situation pour le mettre à l'écart.
Tout le monde sait que je suis athée et de gauche. J'ai toujours combattu la présence du religieux dans l'éducation et en particulier celle des gulenistes à l'époque où ce gouvernement les protégeait. Les policiers ont fouillé mon bureau à l'université et ont trouvé un livre de Gülen qu'ils ont considéré comme une preuve de ma culpabilité. Mais je l'avais utilisé pour écrire un texte contre Gülen. Ensuite, chez moi, ils ont trouvé tous mes ouvrages marxistes et j'ai été relâché. Pour la première fois de ma vie, le fait d'être un athée de gauche a joué en ma faveur.
Ce qui a aussi joué en faveur de l'enseignant, c'est une commission créée après la tentative de putsch par le principal parti d'opposition, le CHP. Cette commission reçoit les plaintes de personnes qui s'estiment injustement punies. En usant de leurs bonnes relations avec le gouvernement, les députés membres de la commission parviennent, parfois, à rectifier certaines erreurs. Il faut dire que le putsch manqué a eu l'effet inattendu de rapprocher le parti au pouvoir de son principal rival, dans ce que les deux partis appellent l'ère du consensus politique. Ce consensus peut-il durer ? Une chose est sûre, les purges anti-Gulen, à l'université et ailleurs, ne sont pas prêts de s'arrêter. À ce jour, près de 90 000 fonctionnaires ont déjà été écartés.
Ce pourrait être drôle, mais en fait, cela n'amuse pas du tout les autorités de voir les adeptes du jeu Pokémon Go chasser des bestioles jusque sur le tarmac des aéroports. C'est ce qui s'est passé récemment à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, celui touché par les attentats du 22 mars. Un ministre belge s'est même fendu d'une lettre officielle demandant aux concepteurs de retirer les Pokémon des zones sensibles pour des raisons de sécurité, Laxmilota.
Des passagers se sont en effet retrouvés dans des zones non autorisées pour attraper les petits monstres colorés. Au lancement du jeu en Belgique, on s'est vite aperçu qu'il y avait un Pokémon au beau milieu du tarmac, raconte une porte-parole de Brussels Airport. Difficile de résister à la tentation pour les passagers chasseurs, ceux qui doivent accéder à leur avion à pied suivent normalement un chemin balisé, tout droit jusqu'à l'escalier qui mène à bord de l'appareil. Mais certains se sont écartés des sentiers battus pour cause de Pokémon rares. Ils n'ont pas à se retrouver sous un moteur d'avion, dans le trafic ou près des petits véhicules qui transportent les bagages ou le carburant, s'indigne le ministre belge de la mobilité François Bello. Encore plus inadmissible pour lui, des employés de l'aéroport, bagagistes notamment, jouent à Pokémon Go pendant leurs heures de travail, car eux ont accès à ces zones sensibles interdites au public, et c'est là que se trouvent les précieux Pokémon. La direction de Brussels Airport a dû afficher des posters à l'intention de ses employés. Interdit de jouer, il ne faut pas se laisser déconcentrer et veiller à la sécurité de tous. Le ministre a donc écrit une lettre à Niantic, la société qui conçoit l'application Pokémon Go, pour lui demander de retirer les créatures incriminées de ces lieux sensibles. Cette dernière a dans un premier temps répondu à l'aéroport qu'il n'y avait pas de preuve d'atteinte à la sécurité et a demandé une lettre des autorités. C'est désormais chose faite. D'autres aéroports ont suivi dans le monde pour les mêmes raisons de sécurité. Londres, Heathrow, Doha, Copenhague ou encore Francfort. Pikachu n'a plus qu'à faire ses valises.
Allez, on continue dans le numérique et la réalité virtuelle. Quand on parle de nouvelles technologies, alors dans les pays baltes, on pense tout de suite à l'Estonie. Pourtant, un troisième du club, la Lituanie, tire avec brio son épingle du jeu. Le secteur y est en plein développement. Certaines marques sont connues même dans le monde entier. C'est le cas de Trafi. L'application de transport a été choisie par le Brésil pour tous les déplacements dans Rio de Janeiro lors des derniers JO. Mais il existe d'autres noms encore, comme Vinted, qui exporte à travers la planète ses vêtements de seconde main. Alors, quelles sont les clés du succès lituanien? C'est ce que nous allons voir avec le reportage de Marielle Vituro.
136 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015, 12 millions de clients dans 10 pays du monde. Le succès de Vinted, une plateforme de vente de vêtements de seconde main sur le net, se conjugue au superlatif. Justas Janauskas a créé cette start-up il y a 5 ans en Lituanie. Pas question pour l'instant d'en partir.
Nous sommes uniques dans le contexte lituanien et c'est un avantage pour attirer des collaborateurs. Nous pouvons recruter les programmeurs les plus talentueux du pays. Et d'ailleurs, c'est l'une des forces de notre pays. L'Europe commence peu à peu à le découvrir. La vie coûte ici beaucoup moins cher qu'en Europe de l'Ouest. C'est donc un énorme avantage.
Une start-up israélienne a même déplacé son département de recherche ici en Lituanie pour bénéficier de cette expertise. L'arrivée de nombreux autres spécialistes des nouvelles technologies comme Google ou Barclays a aiguisé la concurrence et les salaires grimpent. Retour sur le développement de ce secteur avec Darius Versetskas, spécialiste des nouvelles technologies au quotidien économique Versloginios.
Le boom a commencé en 2011 avec l'arrivée des fonds européens à destination des micro et petites entreprises. Le paysage local est intéressant car très divers. Il y a évidemment des start-up spécialisées dans le e-commerce mais sans leader vraiment affirmé. Certaines sont spécialisées dans les biotechnologies, les échanges de biens ou les équipements technologiques très divers.
Inre Selenite et Adas Keshkavicius voulaient changer quelque chose dans leur vie. Ils ont créé Pepi Play, des jeux pour smartphones et tablettes. Et les parents des 2-6 ans sont désormais nombreux à connaître la petite musique de l'écureuil, croqueur de noisettes. Le jeu du bain où le personnage doit se laver les mains, brosser les dents et se coiffer a été téléchargé plus de 5 millions de fois. Adas Keshkavicius.
Développer des produits sur le net est une chance pour la Lituanie. Notre économie est toute petite, basée sur les services, et c'est un cercle vicieux qui ne va pas tirer notre économie vers le haut. Le secteur des nouvelles technologies est une ouverture sur le monde. Aucun besoin de ressources industrielles, un ordinateur, un mini-studio et quelques cerveaux suffisent à faire naître quelque chose. Les choses avancent ainsi. Une association de créateurs de jeux informatiques vient de se créer à Vilnius.
Fin 2015, Vinted a tiré le gros lot en recevant plus de 25 millions d'euros d'investissement. Le fait d'être basé en Lituanie, pays de 3 millions d'habitants à la périphérie de l'Europe, ne les pénalise pas dans un environnement de plus en plus mondialisé. Justas Janauskas.
Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est ton idée, ton business plan, ton équipe. Les spécificités locales sont juste un aspect des négociations. Par exemple, Axel, avec qui nous travaillons à Londres, est spécialisé sur l'Europe. Peu importe pour eux de se rendre à Vilnius ou en Israël.
Le Parlement vient d'adopter un visa start-up pour faciliter l'installation de jeunes pousses venues de pays hors Union européenne. Plusieurs sociétés de jeux informatiques d'Ukraine, Russie ou Biélorussie se sont installées ces derniers mois à Vilnius et se développent avec succès. Une législation poussée par Startup Lithuania, une institution qui cherche à promouvoir le secteur. Rimantė Rybačiauskaitė la dirige. Il reste encore beaucoup à faire.
Nous sommes en train de rédiger un manifeste. Nous voulons inciter les entrepreneurs à investir dans les start-up et leur proposer des crédits d'impôt sur les sommes investies. Il faut aussi travailler avec les universités. Les jeunes savent coder, mais ils ne savent pas vendre le produit qu'ils créent. Nous sommes en train de développer du matériel pédagogique à cet effet.
Un ancien hôpital de Vilnius transformé en incubateur pour start-up sera inauguré dans le courant du mois. Darius Jakaitis est l'un des 3 investisseurs. Il compte sur la création de 800 emplois pour cette première Silicon Valley à la mode balte.
Nous avons un flux conséquent de compagnies étrangères dans ce secteur qui s'installe en Lituanie. C'est un noyau d'ingénieurs talentueux. Le potentiel est énorme. Avec la relocalisation de sociétés informatiques venant de l'Est, il y a de belles perspectives. C'est certainement là le fondement de notre succès à venir. Ne pas associer le pays à un seul grand nom, aussi grand soit-il, mais à plusieurs réussites de taille plus modeste.
Vinted affine son modèle économique et prévoit de gagner de l'argent dès 2017. Signe du succès, un employé à plein temps gère les demandes de stage. Mais la scène lituanienne attend encore son grand soir, la vente de l'un des fleurons du secteur qui permettra d'investir à nouveau dans de nouvelles pousses et booster le secteur en qualité comme en quantité.
Padre Paulo Franco, 43 ans, sócio do Benfica, portador de Red Pass. Lugar que só fica vazio quando estou na missa.
Et oui, comment se démarquer hein, dans le paysage médiatique quand on est une nouvelle chaîne sportive dans un secteur déjà bien encombré? Eh bien, en créant le buzz et en embauchant des commentateurs quelque peu particuliers, comme ces curés supporters de foot. C'est ce qui se passe au Portugal et ce que nous raconte Marilyn Darcy.
Rien de plus commenté, de plus diffusé que le football à travers le monde. Alors comment se démarquer quand on est une nouvelle chaîne de télévision sportive? Eh bien, en embauchant des curés qui vont débattre du ballon rond. C'est le pari un peu fou et pour le moins original que lance la nouvelle chaîne de télévision Sport TV+. Le nom choisi pour ce programme est savoureux, Ultimo Terzo, le dernier tiers, car si le dernier tiers en football fait référence à cette espèce du terrain devant les buts lorsqu'une équipe est à l'attaque, Terzo veut aussi dire appelé en portugais. Le jeu de mots est tout trouvé et les prêtres officiants pour cette messe catholique très prisée au Portugal également. Les prêtres sont supporters des trois grands clubs qui comptent au Portugal, Benfica, Sporting et Porto. Sur la vidéo de présentation du programme réalisé par la propre chaîne, les trois prêtres endossent des chasubles aux couleurs de leur club, rouge, vert, blanc, revendiquent leur foi en Dieu et dans le football et s'inclinent dans un bel ensemble à la fin de leur prestation. Dans la réalité, les trois curés apparaissent en costume et chemise blanche de bon aloi. Paolo Franco, l'un des prêtres invités, explique que c'est une opportunité pour pouvoir aborder au travers du football, des problématiques autour de la formation, l'éducation, l'éthique, une façon en fait de transmettre l'évangile. Les trois commentateurs veulent être entendus pour ce qu'ils sont, des prêtres et pas des individus. C'est d'ailleurs sur cette profession de foi qu'ils ont obtenu l'aval de l'archevêque de Lisbonne, une question de confiance. Quant au programme, il soulève la curiosité dans un panorama médiatique saturé de débats footballistiques.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
That's a good start.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors, la rentrée a été bonne ?
Ah oui, bonne rentrée après de bonnes vacances, tout va bien.
Bon, eh ben écoutez, pour cette reprise en accent, nous partons du côté de la Belgique à la découverte de petits jeunes.
Et oui, alors avec la rentrée de septembre viennent souvent des envies de neuf, d'inédit, de nouveaux cartables, de nouvelles trousses et pourquoi pas de nouveaux groupes. C'est donc avec le premier album des jeunes belges Robbing Millions que je vous propose d'entamer la saison. C'est un quintet formé il y a 4 ans à Bruxelles autour de Gaspard Rieu et Lucien Frépon. Alors ce Lucien Frépon, il est guitariste et il a fait ses premières armes du côté du jazz, tout comme le batteur et le claviériste du groupe. Et c'est peut-être là qu'il faut chercher l'origine de cette souplesse avec laquelle rebondissent les mélodies pop de Robbing Millions, qui conjuguent astucieusement efficacité et embardé psychédélique avec une bonne humeur rafraîchissante.
On termine la semaine avec la pop pétillante de Robbing Millions. À la réalisation, il y avait Ludivine Amado. Lundi, on retrouve Françoise Grelot. Ne zappez pas dans quelques instants les infos.